Black and White.
L'émission présentée par les élèves
de 4ème 3
du collège Édouard Lucas.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Campus Amiens 87.7 FM. Bienvenue dans Black and White, l'émission des élèves de 4ème 3 du collège Édouard Lucas d'Amiens. À travers une succession de chroniques, nous souhaitons vous montrer le regard que portaient les Européens sur le continent africain au XIXe siècle.
Dans le premier temps de cette émission Black and White, créée par la classe de 4ème 3 du collège Édouard Lucas, Ambre, Naïl, Elio et William vont nous présenter une chronique sur le racisme de nos jours.
Souvenez-vous du 25 mai 2020, le jour où George Floyd a été assassiné par un policier en raison de sa couleur de peau. Cet événement déclencha le mouvement Black Lives Matter, qui nous permet de nous interroger sur la place du racisme au XXIe siècle. Dans cette chronique, nous essaierons de comprendre pourquoi le racisme existe toujours en 2023 et comment y remédier. Nous allons alors voir, à travers différents arguments et exemples présentés par William, Naïl, Elio et Ambre, comment changer les mentalités. Dans un premier temps, nous allons voir quelles sont les raisons de ce racisme.
La plupart des personnes racistes sont des personnes renfermées sur elles-mêmes qui ne côtoient pas les personnes de couleur. Elles sont simplement fermées d'esprit et coincées dans leur idée préconçue. La xénophobie ou peur des personnes de couleur ne devrait jamais être justifiée dans le monde. Ils ont peur d'eux sans avoir de raison valable.
Nous avons réfléchi à plusieurs solutions qui, une fois mises en exécution, pourraient changer le monde. Que le racisme soit réellement considéré comme un crime aujourd'hui, ce n'est puni que de 6 mois de prison et 22 500 euros d'amende, si c'était fait en public. Ce n'est vraiment rien comparé au mal que cela fait. Également, plus d'articles dans les journaux et de prévention sur les réseaux sociaux pour faire passer le message.
Et vous, que feriez-vous ? Le racisme doit cesser. Peu importe ce que les autres pourraient en penser, si vous êtes victime ou témoin de racisme, il faut en parler. Porter plainte n'est pas une option, mais une obligation. Se mobiliser pour changer les choses aussi. Nos générations futures sont en jeu. Si vous voulez un monde dans lequel règne la paix, agissez.
Merci pour cette chronique. On enchaîne avec la chronique de Virginia, Léa et Apolline. À travers leur sujet, elles nous expliquent le regard de domination que portaient les Européens sur les peuples africains. Ce raisonnement explique en partie pourquoi le racisme perdure aujourd'hui.
À travers notre chronique, nous allons vous montrer que les Occidentaux portaient un regard de domination sur les populations du continent africain au XIXe siècle. Même si l'esclavage a été aboli une première fois en 1794, Napoléon Ier l'a rétabli en 1802. Cela montre que le regard porté par les Occidentaux sur les populations du continent africain au cours du XIXe siècle reste fondé sur des idées racistes et discriminantes. Dans un premier temps, trois continents, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, pratiquent ce que l'on appelle le commerce triangulaire. Les pays européens récupèrent des esclaves sur le continent africain, puis les échangent contre des marchandises en Amérique avant de rentrer en Europe. Les Européens font subir aux populations d'Afrique des actes inhumains tels que la capture, la torture et les mutilations. Le XIXe siècle est donc une époque horrible pour les peuples africains. Le commerce triangulaire n'est pas la seule chose que les Occidentaux ont imposé aux populations d'Afrique lors du XIXe siècle.
La conquête de territoires touche toute l'Afrique. Ce continent est principalement colonisé par la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, car posséder plusieurs territoires est considéré comme une richesse, un signe de supériorité. Il s'agit également pour ce pays de créer des empires coloniaux. Les Africains n'ont pas les mêmes droits que les Européens. Les puissances européennes diffusent leur langue, leur religion et leur mode de vie dans les territoires conquis. Le village sénégalais est le résultat d'une longue histoire marquée par la domination des Occidentaux sur les Africains. De même, ces derniers sont considérés comme inférieurs. Ils sont vus comme des objets, des bêtes. Les Européens visitent leur territoire colonisé comme s'ils en étaient propriétaires. Nous l'avons également remarqué à travers l'une de nos sorties aux archives départementales de la Somme. Dans ces journaux, les Africains étaient rabaissés au point d'être exposés dans un zoo humain et réduits à l'état d'animaux niant leurs conditions humaines. Ils étaient victimes de ce que nous considérions aujourd'hui comme des injures telles que « c'est noir »,« c'est nègre ». Leur attitude était également critiquée, ils étaient comparés à des singes, à des animaux dociles. Dans le numéro de la presse du 24 juin 1906, ils ont fait un lien direct entre le village sénégalais et une exposition canine. En effet, les deux articles sont similaires et font environ la même longueur. Ils sont présentés comme s'ils étaient liés, mis sur un pied d'égalité. Vous écoutiez Virginia, Léa et Apolline de la 4e 3 du collège Édouard-Lucas d'Amiens. À travers notre chronique, nous avons souhaité vous expliquer les rapports de domination qu'ont exercés les Européens sur les populations du continent africain au 19e siècle.
Caméléonien, chameau et caméléon. Le camélectrique possède une crête colorée et deux bosses dorsales qui lui interdisent de baisser la tête. Deux yeux à mouvement indépendant qui lui permettent de regarder non pas dans une seule mais dans plusieurs directions à la fois. Il peut parcourir de grandes étendues désertes, comme il peut changer d'apparence et se fondre, selon son humeur, dans n'importe quel environnement. Modèle exemplaire de sobriété ou d'excès, le camélectrique peut aussi rapidement tirer la langue et prendre la mouche.
C'est la fin de cette seconde chronique. On continue cette émission avec la chronique de Hervé, Lilian, Winston et Kenzie. À travers leur intervention, ils souhaitent nous montrer comment cette domination était présente dans les expositions internationales.
Au XXe siècle, les humains invitaient les visiteurs à observer tels des animaux, des familles venues d'Afrique. Mais que s'est-il passé en 1906 au parc de la Haute-Oie ? On va tout d'abord parler de l'exposition internationale près du village sénégalais. Commençons par l'exposition internationale. La première fut organisée à Londres en 1851 dans le quartier de Crystal Palace, conçue par Joseph Paxton. Devant le succès de cette manifestation, de nombreux pays reproduisent des expositions de ce genre. Elles se tiennent au moins tous les 5 ans pour une durée de 6 mois. Parmi les plus manquantes figures, celle de Bruxelles en 1958, à Montréal en 1967, Osaka en 1970. Toutes trois consacrées à la paix et au progrès de l'humanité. C'est exactement ce qu'il s'est passé à Amiens en 1906 au parc de la Haute-Oie. Ce n'est pas des œuvres d'artistes ou des progrès de l'humanité, mais des Africains, plus particulièrement venus du Sénégal, venant de tout le pays. Ils étaient une des attractions de l'exposition. En effet, plusieurs attractions étaient présentées, comme par exemple le concours de bébés, constituant l'air le plus beau bébé. Un casino constituant à parler de l'argent ou encore les water chutes, qui est une attraction qui monte d'eau pour descendre rapidement dans l'eau. Et le zoo humain qui était considéré à l'époque comme une attraction. Des Sénégalais dans des cages en tenue traditionnelle et souriant aux visiteurs en jouant aux animaux. Ils sont mis en scène en se battant, en faisant la naissance d'un enfant, etc. pour offrir un spectacle aux visiteurs. Ils sont à moitié dénudés.
Avec nos connaissances, nous allons vous décrire les bâtiments et les manèges du village sénégalais. En arrivant au parc, on voit la dame du guichet qui nous montre le chemin. Voilà qu'on voit une fontaine avec 8 jets d'eau. Un peu plus loin, il y a le water chute, l'attraction la plus connue et amusante de ce parc. Toujours à gauche, nous pouvons aussi voir un restaurant d'architecture asiatique proposant de la nourriture des types grand nature, sur lequel il y a une terrasse et 3 bâtiments collés entre eux avec un toit incurvé. Et à côté du restaurant, on peut observer le palais de l'alimentation. Il sert à stocker la nourriture du restaurant. Pour finir, nous voyons une grande avenue avec une route et des rails au milieu, ainsi que des maisons en décoration sur les deux côtés, des ruelles croisées avec les différentes attractions et endroit pour l'exposition.
Vous écoutez Hervé, Lilian, Winston, Kenzie, à travers la chronique que vous venez d'écouter. Nous voulons dénoncer les actes racistes jusqu'au XXe siècle. Nous passons l'antenne.
Merci pour cette chronique. On enchaîne avec la chronique de Nadja, Yacine et Myron. Ils vont nous montrer que le village sénégalais d'Amiens n'est pas un exemple isolé.
Vous connaissiez bien sûr tous les zoos animaliers, mais connaissiez-vous l'existence de zoos humains ?
Les zoos humains sont des espèces à l'intérieur des zoos animaliers ou des zoos totalement consacrés à eux. Plusieurs hommes, femmes et enfants montrent ce que les Européens et Américains veulent bien voir sur leur façon de vivre. Ces humains étaient remplis de stéréotypes et l'idée toute faite sur eux, car oui, la plupart des visiteurs ne voyaient cette population étrangère qu'à travers ces grilles. Ils sont forcés à faire des spectacles, manger de la terre, travailler, se laver et même d'aller aux toilettes par répétition. Toute la journée, devant plus de plusieurs milliers de personnes. Tous les ans, ces attractions au XIXe siècle sont principalement constituées de peuples africains et asiatiques arrachés de leur pays pour venir alimenter les zoos américains et européens.
Ces nombreuses personnes retirées par force de leur pays sont traitées comme des animaux. On peut lire sur différentes pancartes situées dans les zoos humains de Paris, Londres ou Berlin. Cannibales australiens, mâles et femelles. La seule et unique colonie de cette race sauvage. Érange défigurée et le plus brutal jamais attiré de l'intérieur des colonies sauvages ou dans celui de Bruxelles en 1897. Ne pas donner à manger aux Congolais. Ils sont nourris. Malheureusement, ces exploitations raciales ne datent pas du XIXe siècle. Les zoos viennent de traditions bien avant le XIXe. Pour citer quelques exemples, déjà en Égypte antique, on exposait des mains originaires de Soudan. Pourtant, ces zoos explosent au niveau des visiteurs. Entre 1800 et 1900, pourquoi donc ? Eh bien, tout simplement car l'homme est de plus en plus malsain. Voir des femmes danser à moitié nues, prétendant se cultiver, mais ici, car l'art s'intéresse énormément à l'Afrique et à la culture noire au XIXe siècle.
Au pied de l'Atlas ou au bord du Niger, les bénédictions fleurissent. C'est le jour du départ.
Ils s'en vont à la guerre.
Les adieux retentissent. Les larmes sur les visages s'étalent. L'inquiétude dans les cœurs qui s'installent.
La peur de ne jamais revenir. De ne jamais revoir tous ces sourires.
Se battre pour établir la dignité.
Dans l'espoir d'être aussi considéré. Au nom des autres, j'accepte de mon sort.
Je suis prêt à affronter la violence et la mort.
Pour sauver la liberté. Ils ont tout traversé.
Les déserts sont sablés et les mers démontées. Les combats meurtriers, les corvées, les déchets.
Sous la neige ou la poussière.
Ils récitaient leurs prières.
Aujourd'hui, du fond du cœur, chantons tous en leur honneur.
Ils ont dédié adieu à leurs ailes, emportant les sanglots de leur mère. Ils ont libéré la France entière, tellement fiers de nos arrière-grands-pères. Ils ont dédié adieu à leurs ailes, emportant les sanglots de leur mère. Ils ont libéré la France entière, tellement fiers de nos arrière-grands-pères. Combattants de la liberté,
liberté.
Parfois volontaires, mais souvent forcés.
Ardennes ou sur les bords du Rhin,
ils pensent à leur fille, à leur fils.
C'est la fraternité qui les maintient. Dans toutes les langues, il y a des liens qui se tissent.
Au pays, les épouses, les mamans
participent à l'effort de guerre. La journée, elles travaillent dans les champs.
La nuit envoie de douces prières.
Des maris, des fils les reçoivent prisonniers dans les franges talagues. Sur le sol français, appelé Schwarz, c'est souvent maltraité. Certains s'évadent pour aller résister.
Les autres s'illustrent au péril de leur vie à Birakeb, en Libye, à Cassino, en Italie.
En Provence, dans les Vosges ou avant, en Tunisie, peu à peu libèrent
les populations affaiblies.
Dans les villes et les villages français,
les habitants surpris par ces visages bronzés chantent la liberté retrouvée.
Au prix de tant de souffrances, du sang versé.
Ils ont dédié adieu à leur terre, en portant les sanglots de leur mère. Ils ont libéré la France entière, tellement fiers de nos arrière-grands-pères. Ils ont dédié adieu à leur terre, en portant les sanglots de leur mère. Tellement fier de nos arrière-grands-pères. Combattants de la liberté,
liberté.
Parfois volontaires, mais souvent forcés. Venus du sud avec fierté,
avec fierté.
N'oublions pas qu'ils se sont sacrifiés. Combattants de la liberté,
liberté.
Parfois volontaires, mais souvent forcés.
Merci pour cette chronique. On continue cette émission avec la chronique de Noah, Luna, Elisa et Ilyes. Ils vont vous expliquer que l'Afrique est devenue un sujet à la mode dans l'art au 19e siècle. On retrouve cet intérêt notamment dans la sculpture.
Vous ne connaissez sans doute pas le porteur d'eau. Pourtant, cette sculpture réalisée par Georges-Henri Guittet est exposée au musée de Picardie à Amiens. Lorsque nous sommes allés au musée, nous avons pris plaisir à regarder cette sculpture et nous nous sommes demandé si celle-ci est réaliste ou pas.
Son auteur est Georges-Henri Guittet, né le 13 mars 1871. Il vient d'une famille de teinturiers de Cholet. Rien ne le prédestinait à être sculpteur. Pourtant, Georges décide assez tôt d'étudier à l'école des Beaux-Arts d'Amiens, puis par quelques années plus tard, à Paris. il reçoit une bourse de voyage en 1899 qui lui permet de se former parmi les sculpteurs de la Société des artistes français et de voyager en Orient, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes de l'époque. Il meurt le 31 août 1932 et est enterré à Amiens au cimetière de la Madeleine. Son voyage en Orient influence beaucoup sa création artistique et son attirance pour l'orientalisme, attirance qui manifeste dans ses créations. Il sculpte des œuvres qu'il a certainement dû voir lors de son voyage. Ce porteur d'eau sculpture exposé au musée de Picardie en témoigne.
Dans cette œuvre, Georges Guttet mêle à un thème orientalisme, le réalisme. On peut la voir au musée de Picardie à Amiens, depuis 1903, année de rachat par le musée. Dans cette œuvre, on voit un corps éreinté, fatigué et courbé, sous le poids de l'eau et la chaleur. Cette sculpture fait 1,75 m sur 1,91 m. C'est une sculpture incroyablement grande. C'est une sculpture de marbre gris. De nombreuses petites reproductions en bronze furent éditées d'après ce grand marbre, au signe de son succès auprès du public. Cette sculpture contribua à sa manière à populariser l'idée de colonisation.
Cette sculpture en marbre gris représente un homme grand et robuste. Il est courbé, le porteur d'eau a une seule boucle d'oreille et un bonnet sur la tête, noué sur le côté, laissant penser que ce sont des fleurs qu'il a accrochées à sa coiffe. Il fronce son visage en laissant apparaître des rides afin de montrer sa souffrance. Son visage est dur, l'homme est torse nu. Il porte une sorte de drap autour de la taille, laissant apparaître une partie de ses pectoraux compressés par la sangle. En effet, une outre remplie d'eau est sanglée sur le torse du porteur, vient s'appuyer sur son dos. La lourdeur de l'eau le contraint à se courber pour pouvoir avancer.
Pour nous, c'est une œuvre réaliste, car on peut y voir ses veines et apercevoir l'os qui ressort de sa main. Courbé, une jambe devant l'autre, il semble être en marche. Il a des manières réelles, comme porter de l'eau, une boucle d'oreille, de nombreuses fleurs et un bonnet. En revanche, la statue est plus grande qu'une taille humaine, ce qui ne correspond pas à la réalité.
C'est la fin de cette cinquième chronique. La peinture permet aussi de montrer l'intérêt des artistes du 19e siècle pour l'Afrique. C'est ce que vont nous expliquer Lindsay, Jaïd et Jade en nous parlant du tableau Le Soudanien de Carolus Duran.
Est-ce que vous affronteriez Mike Tyson sans jamais avoir fait de la boxe? Pourtant, Émile Auguste, Carolus Duran, a peint un Soudanien sans jamais avoir été en Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de ce tableau peint en 1886 et essayer de comprendre comment peut-on représenter un Africain sans jamais être allé en Afrique. Nous allons donc d'abord faire une description de cette peinture, puis une brève biographie du peintre, pour enfin nous demander s'il est légitime de peindre un Africain sans jamais être allé en Afrique.
Vous pouvez admirer cette œuvre au musée de Picardie à Amiens. Ce tableau représente un Africain, l'œuvre s'intitule « Un Soudanien ». Il porte un ruban blanc sur la tête qui contraste avec sa couleur de peau. Il porte un manteau kaki et voit son épaule dénudée. Il regarde au loin, il n'y a aucun paysage à part un grand ciel bleu. Émile Auguste est un peintre français, né le 4 juillet 1837 à Lille. Il est décédé le 17 février 1917. Il a étudié à l'Académie de Lille. Émile a voyagé à Rome et aussi en Espagne, mais n'a jamais voyagé en Afrique. Dans ses habitudes, il fait des portraits de bourgeois. Selon Jaïd, ce n'est pas logique car il n'a jamais vu un Soudanien. Selon Jade, c'est pas interdit mais il a le droit de peindre à l'aide de ses connaissances. Et enfin, selon moi, non, ça peut blesser des Africains. C'est pas interdit mais il a le droit de peindre à l'aide de ses connaissances.
En réalité, Émile Auguste Carolus Duran, il s'est inspiré de sculptures représentant des hommes et des femmes originaires d'Afrique. Ce genre de sculpture était très à la mode. À cette époque, elle était considérée comme des œuvres scientifiques permettant de comprendre les Africains.
Merci à vous. C'est déjà la fin de Black and White, l'émission des élèves de 4e 3 du collège Édouard Lucas d'Amiens. On se retrouve très bientôt sur Radio Campus Amiens pour de nouvelles chroniques. À bientôt.
Being a color.
Oh, whatever you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white.